Dieu vous bénisse. On va continuer sur comme fait longtemps on n'en a plus parlé. On va continuer la même lignée. Avant ça, on va d'abord prier. Père très saint, nous nous inclinons devant ta face pour te dire merci pour la vie renouvelée à chacun de nous. Alors que beaucoup ont espéré voir ces jours, mais à toi l'âme a été rappelée. Aussi, s'il t'a plu de nous conserver la vie, certainement pour un but aussi, fasse que chacun accomplisse le but pour lequel tu l'as gardé en vie. Nous nous tenons devant toi, Père éternel, pour que tu nous éclaires, pour que tu nous instruises. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, Père éternel, ô Dieu. Aussi, ô Dieu, que nos cœurs, ô Dieu, soient vraiment préparés, Père éternel, ô Dieu. Et surtout, pardonne nos offenses, car, ô Dieu, qui est digne de se tenir devant toi, ces jours-là, aucun n'a été trouvé digne. C'est au travers de Christ, Père éternel, que nous nous approchons. Lui qui est le Fils, lui qui est le Fils parfait, lui qui est digne, Père éternel, ô Dieu. Et c'est en son nom, Père éternel, que nous te prions de nous conduire et de nous assister en toutes choses. Bénis le rassemblement des saints en quelque lieu que ce soit. Certainement, ils s'attendent à toi comme nous nous attendons à toi. Aussi, éclaire tous, Père éternel, pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. On va lire dans Genèse. Genèse 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham y eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. » Vous pouvez vous asseoir, merci. Il est écrit, après ces événements, de quels événements s'agit-il? Si nous suivons la chronologie qui nous est donnée dans la Bible, au chapitre 14, Abraham s'était séparé de Lot. Et on a vu ça dernièrement. Et puis, Lot fait prisonnier. Donc, Abraham s'est séparé de Lot et Lot a été fait prisonnier dans Sodome. Après, Abraham va les délivrer des quatre rois qui l'ont amené captif, non seulement lui, mais aussi les cinq rois et le peuple. Du retour de sa victoire contre les quatre rois, il va y avoir une rencontre entre Melchisédek, roi de Salem, et sacrificateur du Très-Haut, et Abraham, serviteur du Très-Haut. On avait vu ça aussi, et ils s'étaient rencontrés dans la vallée des rois. Melchisédek n'est pas venu les mains vides, car il fit apporter du vin et du pain à Abraham, et il les bénit. Nous savons que le vin et le pain symbolisent la nouvelle alliance en sa chair et en son sang qui va être conclue entre Jésus-Christ et son Église épouse. En retour de
de combat, Abraham va lui donner la dîme de tout. C'est-à-dire, il va prélever un dixième de tous ses biens qu'il donna à Melchisédek. Il y eut donc un échange. Il y a certains pasteurs qui disent qu'Abraham a donné la dîme des biens qu'il a ramenés de sa victoire sur ses rois lors de la libération de Lot. Rien ne nous permet de le dire. Au contraire, nous lisons qu'Abraham n'a rien pris au roi de Sodome. Si on lit Genèse 14 à partir du 21, il nous est dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Nous pouvons voir, si Abraham n'a rien pris au roi de Sodome, il n'est pas de raison qu'il en prenne des autres rois, pour qu'on ne dise pas que c'est eux qui ont enrichi Abraham. En fait, Abraham avait confiance en Dieu. Même si ce n'est pas explicitement dit, nous pouvons raisonnablement penser que c'était le cas. Il nous est dit seulement, lorsqu'il est revenu vainqueur de Kedor, Laomer et des rois qui étaient avec lui. Il n'est rien dit si Abraham a pris leurs biens. Abraham a donné la dîme de ses biens à Melchisédek, c'est ce qui est dit. Roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut. Remarquez, roi de Salem et sacrificateur. Il y a très longtemps, on avait parlé déjà de roi et de sacrificateur. C'est deux offices qui sont un en Christ. La dîme désignait le prélèvement d'un dixième de ses revenus, récolte ou troupeau, destiné globalement aux lévites et aux prêtres. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails, car il y avait plusieurs sortes de dîmes. Peut-être un jour nous en parlerons. Néanmoins, ce passage est la première mention des sacrificateurs et de la dîme dans la Bible. C'est à cette première mention que nous devons nous référer si nous voulons comprendre l'importance de la dîme dans la suite. Abraham n'était pas encore... La loi, pardon, n'avait pas encore été donnée. Mais ici, Abraham donne la dîme à Melchisédek. Donc, Abraham a rencontré le sacrificateur à qui il donne la dîme de ses biens. Il ne pouvait pas le faire avant, car il n'avait jamais rencontré le sacrificateur du Très-Haut. Il a rencontré l'Éternel qui lui parlait, mais pas en tant que sacrificateur. C'est lui plutôt qui construisait des autels quand il, à l'endroit où Dieu lui apparaissait. Vous pouvez lire ça dans Genèse. C'est le seul endroit où Abraham l'a rencontré dans la Bible en tant que sacrificateur. Du moins, ce qui nous est rapporté. Après, il n'est plus parlé d'une telle rencontre. Remarquez ici, la loi de Moïse n'avait pas encore été donnée, car la dîme va être établie en tant que loi lorsque le peuple va se constituer. Et cette loi n'interviendra que plus tard. Abraham est le patriarche de qui est sorti le peuple hébreu. Mais en plus, il est le père de la foi, père d'un grand nombre de nations. Et si lui a montré l'exemple, c'est que nous avons intérêt à suivre. Il y a une raison pour laquelle il a fait cela. Si nous lisons Romains 4, en effet, donc à partir du verset 13, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. » c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi, par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « J'étais établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il est donc le modèle dans notre relation avec Dieu. Si Abraham, avant de rentrer en alliance avec Dieu, donna la dîme au sacrificateur du Très-Haut en raison de sa foi, car on est justifié par la foi, combien il va en faire infiniment plus en entrant dans l'alliance avec Dieu, car il va sacrifier son fils unique, Isaac, sans la moindre hésitation. La dîme, c'est peu par rapport à la vie de l'enfant héritier qu'il va sacrifier. C'est pour montrer qu'Abraham n'était pas attaché au bien matériel. Il avait une vision beaucoup plus grande que ce qu'on peut penser. Et là, Dieu va lui-même pourvoir pour l'animal de sacrifice un bélier. Ça, on peut lire ça dans Genèse 22, 12, 14. À la place de l'enfant, car il a vu qu'Abraham n'a pas hésité un seul instant de donner ce qu'il avait de plus précieux. Et Dieu nous demande de donner ce que nous avons de plus précieux. C'est reconnaître que tout appartient à Dieu et qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Faire confiance à qui tout appartient conduit au bonheur. Donc, si nous allons dans Genèse 22, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Où Abraham a appris qu'il fallait donner la dîme au sacrificateur du Très-Haut? Nous ne savons pas. Cela n'est pas relaté. Est-ce par révélation ou par pratique religieuse du pays d'où il venait? Je dirais plutôt que c'est par révélation qu'il a fait ça. Car cela préfigurait ce qui devait arriver lorsque la loi devait être donnée. Mais aussi ce qui arriverait dans la suite, car Abraham est le père de la foi. C'était donc un acte de foi et de reconnaissance qu'il a posé. Cela montre aussi un détachement par rapport au bien de cette terre, car tout appartient à Dieu. Ne serait-il pas juste que de lui rendre une partie de ce qu'il nous a donné? Remarquez, c'est dans la vallée des rois que la rencontre eut lieu. Ce n'est pas un hasard. C'est la vallée des vainqueurs, de ceux qui règnent. Paradoxalement, ce n'est pas au roi qu'Abraham va donner la dîme, mais au sacrificateur. Au roi, on donne des cadeaux. Et au sacrificateur, Dieu exigeait de donner la dîme. C'est le roi qui fit apporter du pain et du vin à Abraham. C'est le roi qui s'est fait serviteur. Les serviteurs, c'est les sacrificateurs à qui Abraham va donner la dîme. Je fais cette distinction entre roi et sacrificateur parce que ce sont deux offices tout à fait différents. Beaucoup disent qu'Abraham n'a donné la dîme qu'une seule fois. C'est normal, comme je l'ai dit, parce qu'il n'a vu ses sacrificateurs du Très-Haut qu'une seule fois. Il nous est plus raconté qu'Abraham a vu Melchisédek. Avant cela, l'Éternel ne s'était pas encore présenté comme sacrificateur, mais plutôt comme bouclier, comme celui qui fait des promesses. Au travers de Melchisédek, c'est l'aspect de la sacrificature que Dieu lui fit découvrir. Ce qui s'appuie sur le fait qu'Abraham n'a donné qu'une seule fois la dîme doivent donner plus de justifications. Il ne faut pas se présenter devant Dieu les mains vides. Et remarquez, Abraham a apporté la dîme, il n'a pas été forcé. Il a apporté ça librement. Parce que c'est quelque chose que tu reconnais qui appartient à Dieu et que ce n'est pas pour toi. Nous voyons aussi Jacob qui parle de la dîme en faisant un vœu. Lisons Genèse 28, 20, 21. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Si on regarde un peu plus profondément les textes, Jacob parle dans son vœu de la maison de Dieu et de la dîme. Une préfiguration de ce qui va arriver lorsque la loi va être donnée, lorsque le tabernacle va être construit ou lorsque le temple va être construit. Mais nous ne voyons nulle part après son retour au pays de son père où Jacob donne la dîme. Est-ce parce que la maison n'était pas encore construite, la maison de Dieu, je veux dire? N'oublions pas que Jacob était prophète. Mais nous reviendrons un jour sur cette notion de dîme, si Dieu nous le permet, pour voir dans les Écritures de quoi cela retourne, tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament, car cela fait couler beaucoup d'encre. Si Abraham avait beaucoup de richesses, il lui manquait une chose, la postérité. Et toutes ces richesses qu'il avait, à qui devait-il les laisser? Lot était déjà parti et il était assez riche, donc il ne pensait pas laisser son héritage à son neveu. Ne pas avoir de postérité pose un problème de continuité et d'héritage. Alors, à qui devait-il laisser son héritage? C'était pour lui un souci existentiel. Comme je dis, il s'était déjà séparé de Lot et de toute façon, je ne pense pas qu'il ait eu vraiment envie de donner ça à Lot. Alors, Abraham s'était résolu à laisser ses biens à Éliézer de Damas, né dans sa maison et qui avait la confiance totale d'Abraham. C'était un serviteur fidèle. Et Abraham avait une confiance totale en lui. C'est lui qu'il va envoyer pour aller chercher une épouse pour son fils. L'Éternel va s'adresser à Abraham dans une vision, mais Abraham continue à s'interroger malgré la promesse de postérité que Dieu lui a fait précédemment. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'une garantie pour être certain qu'il aura cette postérité que Dieu lui a promis. Ça nous arrive à nous tous, lorsqu'on nous fait une promesse, qu'on ait besoin parfois d'être rassuré. C'est pourquoi, parfois nous rappelons à la personne, « Et la promesse que tu m'as faite, où en est-on ? » On a besoin parfois d'un signe tangible. C'est pourquoi, si le jeune homme fait une promesse à la jeune fille de l'épouser, si cela traîne trop, la jeune fille va commencer à se poser des questions. Ce qui rassure la jeune fille, c'est que le jeune homme va voir ses parents, les parents de la jeune fille donc, et poser un acte concret. Abraham avait besoin d'être rassuré. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé entre la promesse et la vision qu'il a eue. Entre-temps, l'âge continuait son travail d'usure dans son corps et dans le corps de Sarah. Même s'ils savaient qu'humainement, il n'y avait plus aucune chance d'avoir un enfant. Dieu va lui rassurer que c'est celui qui sortira de ses entrailles qui sera son héritier, et pas Eliezer. Et comment Dieu va le faire? Dieu va lui donner une vision. Et dans la vision, il lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. C'est alors, c'est ce qui est dit dans les textes, c'est alors qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Abraham certainement a dit à Dieu, merci pour la promesse certaine qui va s'accomplir certainement. Mais j'ai levé les yeux au ciel et tu m'as convaincu. Mais qu'en est-il du pays promis? Parce qu'Abraham avait deux promesses. Les promesses, la promesse du fils et la promesse du pays promis où devait habiter sa postérité. À quoi connaîtrai-je que je posséderai le pays? Quelle garantie ai-je? C'est à ce moment que Abraham va lui donner la vision des animaux. On va lire le verset 9 de Genèse qu'on a lu tout à l'heure. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham les chassa. Au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » C'est comme ça, les gens disent souvent qu'une génération fait 100 ans. Mais parfois, ça dépend des contextes. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise ardente, fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Les pays des Kéniens, des Kéniziens, des Cadmoniens, des Éthiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgaziens et des Jébusiens. Je pense que c'est 10 peuples qui sont là. J'ai voulu parler de l'alliance de Dieu avec Abraham au travers de ces animaux qui ont été coupés et leur symbolisme. Mais j'ai été amené à m'arrêter sur ce pays que Dieu promet à Abraham. Le pays que Dieu promet à Abraham est un vaste territoire. Comme nous l'avons lu, c'est le territoire qui se trouve entre le fleuve d'Égypte, le fleuve d'Égypte, on le connaît, c'est le Nil, et le grand fleuve, l'Euphrate. C'est presque donc tout le Moyen-Orient. Je ne sais pas si Fabrice t'a pu trouver, oui, pour montrer un peu le territoire que Dieu a promis à Abraham. Donc, on voit ici, c'est tout ce territoire. Le Nil est ici, et l'Euphrate, il traverse l'Irak. Oui, l'Euphrate doit être dans ces zones ici. Malheureusement, ce n'est pas indiqué, mais il traverse l'Irak, la Syrie et la Turquie, je crois. Donc, le pays est vraiment grand. Pour l'instant, Israël occupe une petite portion, vraiment une très petite portion, et Israël est quelque part là. Une très petite portion. C'est donc un grand territoire que Abraham, que Dieu a promis à Abraham. Et pour l'instant, la promesse n'est vraiment pas accomplie. Et nous voyons que ce coin-là, c'est là que se trouve, où se trouvait en tout cas le temple, et c'est là que se trouve la ville de Jérusalem, la cité de Dieu. Donc, ce territoire, comme vous le voyez, est constitué par l'Égypte, Israël, le pays d'Israël, Gaza, la Jordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite, le Yémen, Omar, le Qatar, les Arabes, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Bahreïn, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie. En fait, pour certains pays, ça coupe en fait ces pays en deux. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais comme vous pouvez le voir, c'est un vaste territoire. L'histoire passée et actuelle nous montre combien cette région est sensible lorsqu'on parle surtout d'Israël. Tout le regard du monde se tourne souvent vers cette région. Cette région n'est jamais en paix à cause d'Israël dans la majorité des cas, ou plutôt à cause de ces nations qui habitent encore les territoires donnés à Abraham. C'est une autre façon de voir les choses, parce que Dieu a promis ces territoires à son peuple. Bien. Donc, cette région n'est jamais en paix et l'actualité nous prouve que c'est très compliqué. Si vous remarquez, beaucoup de guerres qui sont passées de l'autre côté, c'était l'Irak a eu des problèmes avec Israël. Vous vous souvenez de la période des Scud, lorsqu'ils lançaient des Scud. Les Américains et les Français sont partis bombarder la Libye, ils ont délogé Kadhafi. Ensuite, l'Égypte a eu des problèmes aussi avec Israël. Si vous vous souvenez, la guerre des 6 jours. Maintenant, l'Égypte a traité paix avec Israël. Et aujourd'hui, c'est l'Iran. Vous avez suivi, c'est une guerre qui a duré 12 jours. La guerre de l'Égypte a duré 6 jours. Ce qui est assez étrange, c'est que Israël a eu une campagne de bombardement de l'Iran. Les États-Unis sont rentrés dans la danse. Et comme je dis toujours, les États-Unis sont le fils... Pardon, Israël est le fils des États-Unis. Trump est rentré dans la danse et juste la nuit, il se lève et dit, maintenant, cessez le feu. En fait, ça montre que c'est lui qui dirigeait la guerre. Il dit, cessez le feu, je ne veux plus entendre des bruits de guerre. Très étrange. Et trompe, son nom signifie trompette, mais on reviendra là-dessus à une autre occasion. Ce n'est pas vraiment le sujet. Mais il y a beaucoup de choses là-dessus, on en parlera si Dieu nous donne la grâce d'en parler. Donc, on voit que quasiment tous les pays qui sont autour d'Israël ont des problèmes avec Israël. La Turquie n'est pas en reste. Hein. La Turquie ne s'entend pas très très bien avec Israël. Et l'Iran, lui, il voulait carrément détruire Israël. Et on voit, Israël a laissé une épine dedans, c'est la bande de Gaza. C'est où ? Gaza, je vois là. La bande de Gaza qui pose aujourd'hui Israël. Et c'est une épine dans le corps d'Israël. On en reparlera parce que Gaza, c'est aussi quelque chose. Donc, pour comprendre ce qui se passe là-dedans, il faut aller lire les prophéties données dans la Bible. Et nous ne sommes pas très, très loin de cela. Le temps est avancé et nous sommes vraiment au temps de la fin. Et comme je disais, cette partie-là, c'est aux confins, ou si tu veux, à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et donc, Israël est comme le centre du monde. Parce que, justement, aujourd'hui, il y a des batailles pour... Parce que c'est les routes commerciales, ça passe par là. Hein. Et donc, tout le monde veut ce coin-là. Et pourtant, aujourd'hui, avec les avions, avec pas mal de choses, ils peuvent trouver d'autres routes, mais tout le monde se précipite dans ce coin ici. Parce que c'est le carrefour des civilisations. Et on verra, lorsqu'on lira les pays qui sont traversés par l'Euphrate, on peut déjà les lire, hein, quels sont les pays traversés par l'Euphrate. Malheureusement, c'est très difficile ici de voir, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez, lorsque vous rentrez à la maison, regarder. Donc, les pays qui entourent, qui traversent, pardon, l'Euphrate, nous avons la Turquie, la Syrie et l'Iran. Si nous en tenons à la limite est du territoire donné à Abraham, nous avons l'Iran. L'Iran, c'est l'ancien empire perse et il a joué une histoire dans l'histoire d'Israël. Il a joué, comment dirais-je, une symphonie dans l'histoire d'Israël. Ensuite, nous avons une partie de l'Irak. L'Irak, c'est l'ancien Babylone, l'ancien empire babylonien. Et nous avons la Turquie. La Turquie, c'est l'ancien empire ottoman. Et enfin, la Syrie, qui se trouve à l'est de ce territoire. Dans la Bible, quand vous lisez, vous entendez la Syrie. C'est dans ce coin-là. Et souvent, ces nations ont envahi Israël. Bien. Remarquez, au 8e siècle et 7e siècle avant Jésus-Christ, la Syrie, donc le royaume assyrien, contrôlait les territoires s'étendant sur la totalité ou sur une partie de plusieurs pays actuels, comme l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie et une partie de l'Iran. Quels sont maintenant les pays traversés par le fleuve d'Égypte ? Le Nil. Nous avons l'Égypte, le Soudan, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Ça, c'est le fleuve Nil traverse toutes ces régions parce qu'il prend sa source, je crois, en République démocratique du Congo, en tout cas dans cette région-là. Quand on parle de parc de Virunga, dans ce coin-là, c'est là qu'il prend source. Cela veut dire qu'une bonne partie de l'Afrique de l'Est, en tout cas au-dessus de l'équateur, fait aussi partie de ce que Dieu a donné à Abraham. Et la mer Rouge fait partie de ce territoire-là. Mais jamais Israël, en tout cas le peuple de Dieu, n'a occupé tout ce territoire. Et donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham n'est pas encore pleinement accomplie. Nous ne voyons que cette petite partie du territoire occupée par Israël. Comme je le disais, c'est parce que c'est là que se trouve le temple et où devait se trouver le temple, parce que pour l'instant, il n'y a plus de temple, et la ville de Jérusalem. Mais le pays promis à Abraham est beaucoup plus vaste que le petit Israël qu'on voit. Lorsque nous lisons l'histoire, après la mort de Salomon, les tribus du Nord se rebellèrent sous le règne de son fils Roboam, comme on en a déjà parlé. Il y a eu donc deux nations, Israël au Nord, avec capitale comme Samarie, et Juda au Sud, avec capitale comme Jérusalem. Et entre eux, ils se faisaient la guerre et se combattirent souvent. Ensuite, les Assyriens envahirent le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Israël et Samarie, donc le royaume d'Israël et Samarie, sa capitale, tombèrent aux mains de l'armée assyrienne. Et ça, c'était en 722-721 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël fut déporté et des étrangers s'installèrent à la place. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas tracer toutes ces 10 tribus. On parle souvent des 10 tribus perdues d'Israël. Ils sont éparpillés, ils sont quelque part. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Le royaume de Juda, lui, a continué son chemin et il a subsisté jusqu'à ce que les rois Nabucodonosor, les rois de l'empire babylonien, donc le roi de Babylone, envahit le pays. Il y eut la capitulation de Jérusalem en 597 et la destruction du temple construit par Salomon en 586 avant Jésus-Christ. C'est pendant cette période qu'il y a eu déportation à deux reprises, je pense, des Juifs. Et des captifs furent amenés à Babylone. Et c'est pendant la première déportation que Daniel et ses compagnons furent amenés captifs. Ils étaient jeunes lorsqu'ils ont été déportés, mais jamais ils ne se sont souillés. Ils ont gardé la foi dans le Dieu de leur père. Mais nous savons, d'après l'histoire, que, ou même la Bible parle de ça, Babylone a été balayée par les Médo-Perses. Et pendant cette période, il y a eu une certaine grâce en faveur des Juifs. Vous vous souvenez, je crois que c'est Cyrus qui a donné l'autorisation d'aller bâtir le temple. Donc, il y a eu une certaine grâce en faveur des Juifs pendant cette période, car ils pouvaient aussi pratiquer librement leur culte, au point même d'aller reconstruire et le temple et après les murailles de Jérusalem. Durant son exil à Babylone, Daniel va avoir des songes ou des visions où Dieu lui montrait ce qui va arriver au peuple de Dieu et même aux nations dans la suite des temps. C'est pourquoi on parle souvent des 70 semaines de Daniel, qui est en fait le point culminant des révélations que Daniel va avoir. Un jour, peut-être, on en parlera, si Dieu nous le permet, pour montrer que la parole de Dieu est précise. Et je répète, nous arrivons à la fin des temps pour l'Église des nations et que Dieu va bientôt se tourner vers Israël. Le temple qui faisait la gloire d'Israël et de Jérusalem, et Jérusalem, le centre de la spiritualité christique, avec symbole majeur, la présence de Dieu, les temples. Aujourd'hui, les temples n'existent plus. Et le pays, Jérusalem, est dans la servitude. Si vous vous souvenez, dans la Bible, il est parlé d'Agar et de Sarah. Agar, c'est Jérusalem dans la servitude. Parce que quand vous regardez même ce qui se font en Israël, c'est à se demander si c'est le peuple de Dieu. Et pourtant, Dieu a son regard là-dessus. Ça peut paraître paradoxal. Les voies de Dieu sont insondables. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, il n'y a plus de temple et les nations foulent aujourd'hui Jérusalem. Nous voyons les dômes du rocher, symbole et marque de l'islam en terre sainte, construit sur les monts même du temple. Et là, se dressent ces dômes du rocher défiant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham. Et nous savons que c'est une abomination, car là où devait se dresser le temple de Dieu, se trouve aujourd'hui le sanctuaire islamique. Et il est reporté que dans ce sanctuaire, il y a une pierre. Je ne sais pas quel type de pierre c'est. Nous avons aussi vu l'histoire avec l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a régné dans la région, donc, de l'actuel Israël pendant 400 ans. C'est environ 400 ans. C'est de 1517 à 1917. Et 400 ans nous rappellent un peu à autant qu'Israël a fait en Égypte. Et c'est en 1917 que l'Empire ottoman fut vaincu par les Alliés pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les troupes britanniques dirigées par le général Allenby qui prennent Jérusalem pendant la Première Guerre mondiale. Pour la première fois, ce sont les troupes britanniques qui vont dominer cette partie du Moyen-Orient. De la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion des Juifs dans le monde entier à l'occupation par l'Empire ottoman, il s'est écoulé environ 14 siècles. Et pendant ces 14 siècles, cette région a été occupée par divers empires ou peuples, à commencer par l'Empire romain, donc l'empire qui détruisit la ville et les temples de Jérusalem et qui vit la dispersion des Juifs. Pendant cette guerre d'Israël et d'Iran, si vous suivez l'actualité, l'opération qu'a menée Netanyahou s'appelait « The Rising Lion », le lion qui se dresse. Faire attention parfois aux mots ou au dire de lorsque on entend certaines choses, il faut vraiment parfois sonder la chose. Les lions qui se dressent. Et Bibi, hein, on appelle souvent Bibi Netanyahou, il a un nom chéri comme ça, Bibi. Il est parti au pied du mur des Lamentations y faire des prières. Et il y a mis une référence biblique tirée du livre des Nombres, Nombres 23-24. Le peuple s'élèvera comme un grand lion, annonçant ainsi l'imminence des frappes contre l'Iran. Nous devons veiller à ce genre de choses. Remarquez, le peuple d'Israël est un peuple prophète. Bien. Les lions, nous savons que les lions sont les rois de la forêt. Mais Christ est aussi typifié en lion, le roi des rois. Hein, Christ est le roi des rois. Était-ce à dire que le roi des rois commence à se lever pour vaincre ses ennemis? Je n'en sais rien. Juste une question. Et si c'était une parole prophétique dont lui-même n'en comprenait pas la portée? Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un sans que la personne ne sache exactement ce qu'il en est. Messieurs, quelle heure est-il? Cela veut dire que le temps des nations va bientôt peut-être prendre fin. Juste, une réflexion. Dieu voulant, nous continuerons la fois prochaine pour voir si possible, dans la mesure du possible, si Dieu nous éclaire, les prophéties, l'histoire et l'actualité, car tout se mêle. Et nous verrons aussi les rôles des nations d'Afrique autour du fleuve Nil que nous avons vu dans l'histoire d'Israël, si Dieu le permet. Priez seulement pour moi pour avoir suffisamment de temps et que Dieu nous éclaire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire. On va prier. Merci Père, ô Dieu, pour ce temps nous accorder et plonger nos regards dans ces livres bénis où tu nous montres, Père éternel, les déroulements, les événements, ô Dieu de miséricorde, devant nous. Seigneur, si tu as mis ces choses, Père éternel, c'est pour que tu puisses attirer notre attention et qu'en conséquence, ô Dieu, nous puissions, ô Dieu, prendre les dispositions qu'il faut, car le temps est fort avancé. Nous voyons, Père éternel, ô Dieu, les nations s'élèvent alors que Trump est venu parlant de paix. Effectivement, il parle de paix, mais la paix par la guerre. Mais nous savons que le roi des rois vient établir la paix éternelle, où on n'aura plus à faire de guerre, on n'aura plus, ô Dieu de miséricorde, à voir nos corps malades. C'est ce moment-là que nous attendons aussi. Prépare, ô Dieu, laisse-nous nous préparer et donne à chacun la révélation qu'il faut pour savoir les temps dans lesquels nous vivons. Nous nous recommandons entre tes mains pour la suite, car il y a beaucoup de choses. Ta parole, ô Dieu, est un mystère. Et dans ce mystère, il n'y a que toi seul qui peux nous le révéler, car c'est ta parole. L'homme peut y plonger ses regards, mais si l'Esprit de Dieu ne le conduit, il ne verra rien, absolument rien. Aussi, aide chacun, Père éternel, à sonder les Écritures, comme Daniel a vu ce temps-là par les livres qu'il restait au Dieu, peu de temps, Père éternel, au Dieu, qui avait 70 ans qui étaient accordés au peuple de Dieu. Aide-nous, Père éternel, au Dieu. Merci pour l'occasion que tu as pu nous donner de partager ces quelques moments. Maintenant, raccompagne chacun, Père éternel, et que la paix de Dieu soit sur chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.